Et au Lambert Café, avec grand plaisir, j'accueille Mélanie Couture. Bonjour Mélanie.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super bien. Mélanie, j'aimerais ça que vous me parliez de vous un petit peu. Vous, vous êtes sexologue.
Non, j'étais sexologue.
Vous étiez sexologue. Vous avez pratiqué pendant 5 ans?
En fait, il y a des termes qui sont un peu différents que je vais utiliser juste pour que vos auditeurs se fassent la bonne image.
Okay.
J'étais sexologue éducatrice pendant 5 ans, c'est-à-dire que j'avais un bac en sexologie et j'ai enseigné un programme de rééducation à la santé sexuelle pour des femmes victimes de violences conjugales et des femmes victimes d'inceste, ainsi que des jeunes adolescentes mères. Bon, ça a l'air sérieux tout ça, mais c'est ce que je faisais. Donc, souvent, quand on entend le mot « pratiquer », les gens m'imaginent dans un bureau, mais c'est pas ça que je faisais.
OK. Puis là, vous avez eu l'appel de l'humour. Vous aviez un amour inconditionnel pour l'humour que vous aviez mis en veilleuse?
Non, en fait, c'est complètement l'inverse. Je suis tombée dedans par pur hasard.
Comment ça?
Étant donné que je travaillais avec des problématiques qui étaient parfois lourdes pour l'esprit,
ouais.
J'avais besoin de ventiler mon esprit. Et de cette façon-là, ce qui est arrivé, c'est que je me mettais à faire des cours du soir pour me rappeler que la vie était belle, hein, et qu'il n'y avait pas juste des problèmes. Donc, autant que j'ai fait des cours de salsa ou d'espagnol, autant qu'à un moment donné, j'ai cherché cours du soir sur Internet en tapant dans Google, et je suis tombée sur École nationale de l'humour, une école que je ne savais même pas qui existait quand j'ai googlé ça. On parle de peut-être 2003-2004.
OK. Et puis, vous êtes allée à l'école.
Ben en fait, j'ai fait des cours du soir, parce que ça existe, des cours du soir, l'École nationale de l'humour. Donc, tu peux juste aller faire, tu as besoin de 18 ans et plus et d'un peu d'argent pour aller faire le cours. Et j'ai rencontré des gens tellement sympathiques qu'on avait beaucoup de plaisir que j'ai fait un deuxième cours du soir. Et c'est dans le deuxième cours du soir qu'il y a une professeure qui a dit « Pourquoi tu n'essaies pas pour le programme temps plein? » Puis je lui ai dit « Mais parce que je suis sexologue, j'ai un travail. » Ben, le fait, c'est pas une assez bonne raison. J'ai fait « Ah, merde, elle vient de mettre une petite graine dans mon cerveau qui est en train de germer. » Fait que c'est là que j'ai dit « Allons jusqu'au bout. Faisons les auditions. Je vais me faire refuser puis je vais pouvoir continuer ma vie. » C'est pas le plan.
C'est pas ça qui est arrivé.
Non, ça a viré bout pour bout. Je me suis ramassée finalement à passer plusieurs étapes. Là, il y a l'audition, là, il y a le stage, il y a le test de français. Bon, toutes ces affaires-là. Puis on m'a dit oui à tout. Fait que j'ai fait « Oh, là, il faut vraiment que je prenne une décision. » Et je me suis rendu compte que l'humour était un vecteur de transmission qui a un énorme pouvoir au Québec. Donc, parler à travers l'humour peut aussi être une forme de transmettre des connaissances aux gens. C'est juste que c'est un format différent qu'avoir des gens dans une classe ou c'est dans un groupe fermé ou bon, tout ça. Fait que j'ai dit, essayons voir ce que ça va donner. Je me donne 10 ans. 10 ans, là, si ça marche pas, je retournerai sexologue éducatrice.
Ouais, des fois,
je suis jamais retournée.
Des fois, les messages passent mieux aussi dans un cadre comme ça. Vous avez foulé les planches de plusieurs festivals ici et ailleurs aussi, donc ça a bien fonctionné.
Effectivement, j'ai pas à me plaindre. L'humour a été bon pour moi. C'était un métier qui m'a amené à travailler à l'extérieur, mais qui aussi m'a amené à travailler de l'intérieur parce que ça demande énormément d'introspection. Fait que j'ai trouvé ça bien fun. Ben je trouve ça encore bien fun.
Et puis vous êtes créatrice de séries web aussi, donc vous chômez pas du tout.
Non, effectivement. Mais c'est la beauté de l'humour. C'est que, étant donné qu'il y a de l'humour partout au Québec, on en retrouve jusque des fois dans des publicités de centres de salons funéraires, là, vraiment ils tapissent ça partout. L'avantage, c'est que maintenant, si on a un talent en humour, ben il y a énormément de portes qui s'ouvrent à nous. Donc, étant donné que le web est arrivé à peu près 4-5 ans après que j'ai gradué, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant et stimulant ça, à place d'attendre une série télé, faisons des petites capsules qui pourraient être intéressantes puis tout ça. » Fait que ça m'a permis de toucher à tout. Puis je suis quelqu'un qui s'ennuie quand elle fait longtemps la même chose. Donc, tu sais, même dans le temps que j'étais sexologue, j'avais besoin de changer mon programme d'enseignement souvent. J'avais besoin de changer de population avec à laquelle je donnais mon programme. Fait que pour moi, l'humour, être capable de faire des séries web, de la scène, un peu de télé, des livres, ben c'est...
Justement, est-ce que le livre, c'était la suite logique dans votre carrière?
Non, le livre a été encore une belle surprise. Moi, en fait, on me montre un chemin, puis je fais « OK, go, on y va ».
OK.
C'est un peu plus ça. C'est Nathalie Ferraris, qui était un peu chasseur de tête, comme on pourrait dire, pour les éditions Recto Verso, qui sont sous la bannière des éditions de l'Homme, là, en fait. Et, et Nathalie, elle m'avait approchée parce qu'elle, elle écrivait aussi un livre et elle avait besoin qu'on jase ensemble. Fait que je suis allée prendre un café avec et après ça, c'est même si sur Facebook. Elle a dit, mon Dieu, tes statuts sont donc bien intéressants, ça rejoint du monde. Les gens, tu sais, tu n'as jamais pensé écrire un livre. Puis je suis partie à rire, j'ai dit, ben non. J'ai dit, quand on écrit des jokes, nous autres, c'est le moins de mots possible pour arriver le plus vite possible au punch. Je veux pas étirer ça pendant 250 pages. Puis là, elle m'a dit, ah, ben, je penserais, si c'était toi. Puis j'ai fait, ah bon, une autre graine de germer. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis mise à penser à ça. Elle dit, tu fais le format que tu veux. Ça peut être des petites nouvelles. Ça peut être un livre de mini-conseils. Ça peut être un grand roman. Ça peut, tu sais, tu décides comme tu veux. Fait que c'est de là qu'est né 21 amants sans remords ni regrets.
Qui a connu quand même beaucoup de succès. Ça a été réimprimé pas longtemps après sa parution.
Exactement. On s'est pris à peine un mois, puis il a fallu qu'on réimprime. En fait, techniquement, si on se fie aux chiffres qu'on nous donne, le roman est double best-seller. Fait qu'on, la maison d'édition est bien contente. Puis, une talonnée depuis un petit bout de temps pour écrire un tome 2, ce qui faisait mon affaire, mais j'attendais un peu
la réaction. De
rentrer comme faut dans mon horaire.
Ouais.
Mais c'est ça. Et le 21 amants sans remords ni regrets a été une réponse à toute cette vague de Fifty Shades of Grey qui, ma foi, me faisait mal par en dedans pour avoir travaillé avec des femmes victimes de violence conjugale parce que le BDSM, c'est une chose, mais j'avais l'impression que cette relation-là entre les deux était malsaine. Tu sais, ça avait l'impression que c'était comme une relation, ça décrivait une relation de violence conjugale. Puis je me disais, écoute, on est une couple de filles, là, dans la trentaine, à assumer leur sexualité, puis pas être la jeune vierge qui se fait déflorer par un prince, puis que, tu sais. Fait que j'étais tannée un peu de l'histoire des contes de fées, que c'est toujours le même rôle de la pauvre petite paysanne qui connaît pas la vie. Tu sais. Puis j'ai dit, ben, écoute, on n'est pas si, je suis certainement pas la seule. C'est donc là j'ai décidé de créer le personnage de Charlie, qui est une femme qui était bien dans son corps, bien dans sa peau, et qui, célibataire, avait quand même des besoins et des pulsions sexuelles. Puis elle y répondait sans se sentir mal, sans avoir de culpabilité ou d'humiliation qui venait avec ça. Puis de façon saine aussi, ce que j'avais pas vu si souvent que ça dans les romans.
Et à la conquête du clan.
Qui est le tome 2, qui vient juste de sortir il y a quelques semaines. Et la conquête du clan, c'est la suite. C'est Charlie qui maintenant cherche, vu l'horloge biologique qui sonne vers 37 ans, elle se dit, bon, ben c'est bien beau le célibat, les amis, la fête et tout, tralala, mais à un moment donné, elle veut bâtir son propre clan à elle. Elle veut commencer à être amoureuse de quelqu'un, à être avec quelqu'un, à côté de quelqu'un le matin et que ça soit pas quelqu'un de différent. Vraiment, elle a envie de bâtir son clan. Donc, elle part à la recherche d'hommes. Donc, sa façon de séduire change parce que son objectif n'est plus le même. Mais dans le premier roman, ben elle rentre. Chaque chapitre est un amant différent. Et dans le deuxième roman, chacun des chapitres au début du roman, c'est des dates, des rendez-vous galants différents qu'elle raconte quand même jusqu'à temps qu'elle tombe sur le bon puis qu'elle se case.
Alors, jamais 203, on se donne rendez-vous un autre tantôt, Mélanie Couture, en attendant...
Laissez-moi le temps de souffler, mais...
en attendant, on lit, si ce n'est déjà fait, 21 amants sans remords ni regrets chez Recto Verso et puis à la conquête du clan aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous, Madame Lambert. Bonne journée.
Bye-bye.
Au revoir.